Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Made by Binge Audio.
Ça rentre par tonnes. Par les ports principalement. Les médicaments illicites inondent les marchés africains. Les autorités policières et judiciaires internationales font peu d'affaires. Les condamnations sont encore plus rares. Pourtant, les produits sont là, sur des étals à même la rue, accessibles par n'importe quel habitant d'une ville du Togo, du Bénin ou du Ghana. Ils sont achetés et consommés quotidiennement. Les soudaines descentes de police perturbent à peine ce commerce de proximité vieux comme le vieux continent. Un peu d'agitation et tout reprend son cours. La pharmacie par terre, comme on appelle parfois ces marchés, pour les uns vend de la mort, pour les autres offre la possibilité de se soigner à moindre coût. Marché nécessaire ou marché délétère? Promenons-nous dans ces voies.
Des comprimés aux injectables, en passant par les sirops, les colis, les pommades, les suppositoires, les ovules et les sprays. Nous sommes à Jamil Roxy, le haut lieu du commerce de médicaments de la rue et de médicaments illicites en Côte d'Ivoire. Ici, les médicaments sont vendus à l'air libre, exposés au soleil, à la poussière. Aucun respect des règles de conservation.
Street Médoc, dans l'arrière-cour du Big Pharma.
Nous voilà en Afrique, dans un marché de rue. Marché noir, marché illicite, marché informel. C'est la surface visible d'un trafic dont les ramifications sont mondiales, un trafic qui s'enracine dans le légal. Système D ou système mafieux, il va nous falloir le comprendre. En un petit groupe, des habitants sur le marché regardent sur un vieux poste de télévision un reportage qui met de la tension sur le sujet.
Au cœur de la ville, le marché central. Un bazar où l'on trouve de tout, y compris des faux médicaments. Un trafic au vu et au su de tous. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ici sans rester discret.
Le directeur sûreté pour l'Afrique du géant français Sanofi nous avait déconseillé de nous rendre dans un de ces marchés.
Alors, visiter un marché de rue demeure quand même une activité dangereuse. Vous imaginez bien que, puisque c'est des lieux de trafic faux médicaments, si vous arrivez comme ça, vous allez être identifié très rapidement, vous pouvez vous retrouver dans une situation un peu compliquée.
Karine Baxer, anthropologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
J'ai passé 2 ans dans ce grand marché d'Antokpa, là, et j'observais très bien qui étaient les approvisionneurs et d'où ça venait. Les produits venaient de ces 2 sources principales dont je vous parle, contrairement aussi à ce qui est généralement véhiculé, d'un système mafieux, etc., pyramidal, etc. Au Bénin, la réalité de ça, c'est que les produits viennent en partie des circuits formels, mais ça se passe à travers une multitude de relations interpersonnelles. C'est pas un système organisé de haut en bas avec des filières. C'est plein de voies possibles. Un petit centre de santé privé qui peut aller s'approvisionner auprès des grossistes. En fait, de multiples possibilités qui va faire qu'une personne va commander des médicaments chez ses grossistes et va en redistribuer une partie dans le marché informel, en fait. C'est pas une voie d'approvisionnement principale avec un grossiste qui serait mafieux et qui écoule sa production comme ça. Tous les clients potentiels des grossistes peuvent commander un peu plus pour eux et aller le revendre sur le marché informel. C'est une multitude de relations interpersonnelles. La grosse compétence de ces vendeurs informels, de ces grossistes, c'est de pouvoir avoir des contacts. Chacun cherche à avoir le bon contact, la bonne personne, quelqu'un d'un centre de santé du Nord, du Centre, du Sud, tiens, peut-être quelqu'un aussi du Togo qui commande des médicaments et qui, voilà. Donc en fait, la grande compétence de ces vendeurs informels, de ces grossistes, c'est de pouvoir avoir de nombreuses relations, on va dire commerciales, relations de travail, voilà.
Des relations de travail.
Nous sommes loin d'un coupe-gorge, donc. Qu'est-ce qui s'y vend ? Pour le chercheur de l'IRD Mathieu Quay, ce n'est ni plus ni moins qu'un marché comme un autre.
On retrouve les mêmes médicaments sur le marché formel et sur le marché informel. Alors, pas tous les types de médicaments, mais c'est très facile de retrouver des médicaments dans les deux types de marchés.
Une porosité dont on a bien conscience, même à l'OMS, comme l'explique l'analyste Pernette Bourdillon.
C'est vraiment pas que dans les systèmes légaux et réglementés qu'on trouve des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Hein. C'est dans tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, dans tous les secteurs, mais il y a un niveau de risque qui est plus élevé. Le niveau de risque le maximum, ça va être la chaîne non réglementée, illicite, le cliché du marché de rue.
Le médicament de rue, par leur disponibilité et leur faible coût, sont susceptibles de se retrouver dans certains hôpitaux.
Bonjour.
Bonjour Alphonse. Il paraît, j'ai entendu dire que les hôpitaux eux-mêmes parfois achètent des médicaments de rue.
En toute honnêteté, ce n'est pas une information que je peux affirmer parce que je n'en suis pas témoin, mais j'entends le dire et parfois... Vous entendez des populations en parler, et c'est surtout les hôpitaux de rue ou les centres de santé des quartiers qui ne sont pas forcément homologués par l'État. Mais il y a des informations qui font croire quand même que même dans les grands hôpitaux, il y a des fois ces situations qui se présentent où on va s'approvisionner aux médicaments dans les rues. Eh bien, on va chercher à savoir.
Alexandre Badjagoma, directeur exécutif de l'association FOI Togo.
Donc les médecins et des soignants aussi utilisent des médicaments de rue.
Oui, moi je vous l'ai dit, je suis sur le terrain depuis plus de 8 ans et nos enquêtes, nous en avons vu comme ça, les soignants allaient acheter des médicaments là où la population va également chercher, pas en pharmacie. Donc, les soignants vont également chercher ces médicaments-là.
Et ils disent pourquoi ? Pourquoi ils ne vont pas à la pharmacie ?
Non, ben, ils trouvent ça moins cher. Ils trouvent ça moins cher. Selon eux, c'est là, c'est moins cher.
Le vrai et le faux, les distinctions ne sont pas si tranchées. Qu'est-ce qui fait que certains médicaments, bien qu'interdits, restent si attrayants ?
Eh bien, en fait, c'est la présence de médicaments hyper populaires, qui sont autorisés dans les pays anglophones voisins et qui ne sont pas autorisés au Bénin. Et ce sont des médicaments qui ont un packaging particulier. En fait, ce sont des médicaments formels dans les pays anglophones, dans lesquels la régulation est différente. Et donc, forcément, comme pour tout produit de consommation, les fabricants vont mettre en place des packagings pour attirer l'œil du client qui va choisir tout seul le produit qu'il veut. On va avoir des packagings avec, je ne sais pas, 8 petites vignettes avec un monsieur qui se tient la tête, un monsieur qui se tient les dents parce qu'il a mal aux dents, un monsieur qui se tient, ou une dame qui se tient la hanche parce que, voilà, il a mal aux articulations. Et donc ça, c'est hyper efficace. Les gens parlent de... Ces médicaments sont renommés localement en fonction du packaging. Donc par exemple, ils vont parler de papa mouchoir, maman mouchoir, puisqu'on voit un homme ou une femme qui se mouche, voilà. Ces médicaments-là, qui sont beaucoup fabriqués dans les pays émergents d'Asie, arrivent d'abord dans les pays anglophones, mais de manière formelle, hein, c'est des médicaments qui sont autorisés dans les pays. Donc ces médicaments autorisés dans les pays anglophones se retrouvent sur les marchés informels du Bénin, deviennent très populaires et ces médicaments ne sont pas accessibles en pharmacie.
Si l'on prend l'exemple de la capitale togolaise, Lomé, ce que vient d'expliquer l'anthropologue Karine Baxer se traduit de la façon suivante. La ville est traversée par la frontière entre le Ghana anglophone et le Togo francophone. Papa mouchoir est lawful d'un côté du trottoir, mais devient illégal de l'autre. Et vu les besoins, la vente informelle est très organisée. L'anthropologue déambule dans ses réseaux qui s'adaptent à tout.
Alors les 7 catégories dont je parlais, ça c'est vraiment pour les détaillants. Parce qu'en fait, on a des vendeurs grossistes, des vendeurs détaillants. Ceux qu'on voit le plus, qui sont le plus visibles, c'est les détaillants, des vendeurs en marché, dans les marchés de quartier ou les marchés ruraux, des vendeurs ambulants. Les vendeurs de bord de voie, ça c'était à Cotonou, donc des vendeurs qui s'installent au bord des voies passantes en fin de journée, quand les gens sortent du boulot en fait. Il y a aussi les vendeurs dans les transports en commun. Il y a aussi un autre phénomène, c'est la question de la phytothérapie standardisée. Les marchands ambulantes qui font qui vont de maison en maison, de concession en concession, qui se trimballaient sur la tête avec des grands tupperwares en plastique remplis de médicaments, alors bien fermés hermétiquement à la poussière, etc. Évidemment que les vendeurs, en fait, ils savent tout ce qui se dit, évidemment, sur le marché informel, etc. Donc, ils tentent de rassurer leurs clients en essayant de valoriser leurs marchandises et donc de le vendre à l'abri de la poussière. Ils se déplacent plus en début de journée ou en fin de journée, donc pas au moment où il fait le plus chaud, où le soleil tape le plus. Donc, voilà, tout un tas de stratégies. Il y a la question de la péremption qui est souvent mise en avant dans les discours, on va dire, dominants sur le marché informel. Les vendeurs font attention à ces questions de péremption et savent très bien que les clients vont regarder, pour ceux évidemment qui peuvent lire ce qui est marqué sur les boîtes. Mais en tout cas, ça c'est une question. En fait, le vendeur, comme dans toute relation commerciale, le vendeur a intérêt à ne pas tromper son client au risque de le perdre.
Les villes du Togo, comme du Bénin, ne manquent pas de pharmacies. Pourtant, leur fréquentation reste inférieure à ce que l'on pourrait attendre au regard de la population de ces pays.
Un autre volet, ce sont les pharmaciens. Les pharmacies ne sont pas ouvertes au public. Le public considère la pharmacie comme étant un lieu de riches, comme un mystère. Vous voyez, vous imaginez... Et quelqu'un qui veut rentrer dans une pharmacie et enlève ses chaussures avant de rentrer.
Docteur, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Présentez-vous, s'il vous plaît.
Je suis docteur Amoussou Amavi, pharmacien.
Vous êtes docteur en pharmacie. Ici, on vous rend visite dans votre maison, dans la pharmacie. Des gens, nous avons vu certains qui trouvent la pharmacie comme un luxe, c'est-à-dire rentrer dans vos pharmacies toutes baies vitrées avec des gens bien habillés. On a vu même une dame à l'entrée d'une pharmacie enlever les chaussures avant de rentrer. Est-ce que ça ne pose pas un vrai problème social quand on veut que ces gens quittent la rue pour venir s'approvisionner dans les pharmacies?
C'est pour ça, oui. C'est un réel problème. Nous sommes dans une zone populeuse et nous essayons de corriger ces problèmes par l'information, par la sensibilisation. Nous nous faisons tellement proches d'eux pour leur expliquer de fond en comble qu'en pharmacie, ils trouvent le produit sûr, le produit de qualité. Mais dans la rue, regardez, les produits sont exposés à tout ce que vous voulez, comme intempéries, à la chaleur, la poussière. Ils s'intoxiquent avec ces produits, ces patients qui sont complètement dans la sous-information.
Ce n'est pas tant la poussière ou les intempéries qui posent problème dans les marchés de rue. Une attention toute particulière y est emportée par les bonnes dames. Bonnes dames dont l'offre est importante et variée, comme nous l'explique Karine Baxer.
Pour les détaillants, on va se retrouver avec, en gros, c'est l'offre et la demande, en fait, la loi de l'offre et de la demande, ce que les gens vont demander. Et donc on va forcément retrouver des antalgiques type le paracétamol. Après, on va avoir des antibiotiques. Donc, en fait, ça va être quelques molécules les plus connues, hein, l'amoxicilline, l'ampicilline, le cotrimoxazole. Bon, donc, on va avoir des antalgiques, des antibiotiques, des vitamines, des antipaludiques dans ce contexte-là. Jusqu'en 2017, il y avait donc un centre grossiste de la distribution informelle de médicaments qui était dans le grand marché de la ville, qui est un des plus, qui est décrit comme un des plus gros marchés d'Afrique de l'Ouest. Donc les gens de la ville reconnaissaient ce lieu comme un lieu dans lequel ils pouvaient aller avec des ordonnances, par exemple, en sortant des centres de santé. Ils pouvaient trouver tout type de médicaments. En fait, ce qui va vraiment guider leur offre, c'est ce que les gens leur demandent, en fait.
Au Bénin, les marchés informels ont largement été réprimés ces dernières années. Au Togo voisin, des opérations se mettent désormais en place avec des saisies régulières. Ce qui, pour Alexandre Badjagoma, le directeur exécutif de l'association de lutte contre les faux médicaments FOI Togo, ne se fait pas sans une arrière-pensée très pragmatique.
La corruption.
Moi, je vous dis, les policiers qui saisissent ces médicaments-là, après, revendre ces médicaments dans la rue. Ils revendent ça. Moi, j'ai été. Nous sommes sur le terrain, nous savons ce qui se passe. Les médicaments qui sont saisis reviennent dans la rue. Mais comment? Ce n'est pas possible. Qu'on saisisse un produit prohibé et qu'il revienne encore dans la rue. Ça gangrène vraiment à la santé et à l'économie des populations. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'a pas une volonté d'éradiquer ce fléau-là.
Général Yargue Damram, bonjour.
Bonjour, monsieur Legault.
Vous êtes le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Régulièrement, on vous voit saisir les médicaments qui sont vendus sur les marchés illicites. À date précise, vous allez brûler ces médicaments, monsieur le ministre. Mais il y en a qui disent que vous ou vos services compétents arraisonnent ces gens de médicaments, mais en même temps, les revendent à nos bonnes dames. Est-ce que vous êtes au courant de cette information? L'avez-vous entendu une seule fois et est-ce que vous avez vérifié?
Je serai le premier à vous remercier si vous m'apportez une information comme ça. Nous avons toujours dit que nos portes sont ouvertes. On ne peut pas être censeur et être encore celui-là qui encourage. On ne peut pas prêter serment pour combattre quelque chose et faire le contraire. Si vous avez des informations de nos services qui saisissent et qui revendent, nous serons vraiment très intéressés pour frapper d'une façon exemplaire. On ne peut pas, ça c'est être même plus criminel que celui qui vendait ces produits pharmaceutiques.
Les bonnes dames, des criminels.
Entre petite économie de survie et moyens de reconnaissance sociale, ces vendeuses de rue sont certainement, sans s'en apercevoir, les petites mains des guerres de régulation entre les autorités pharmaceutiques.
Thank you.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.